Bienvenue dans Moderne, le podcast de Maremood consacré aux tendances d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes Katia Barillo, rédactrice en chef du Maremood, site d'information et de tendances, et
Sandrine Maggiani, Trend Director et Digital Content Editor.
Chaque dimanche, sur le temps d'une conversation entre amis, nous décryptons les tendances mode, beauté, bien-être, déco, food, etc.
Bref, les grands courants socioculturels qui influencent nos comportements et façonnent le monde et le mood moderne.
Bonne écoute. C'est bien d'être au bureau. Un jour, on ne devrait pas être au bureau.
Mais ouais, on transgresse les règles.
Mais ouais, mais on travaille.
On travaille.
Alors, l'amour court en 2021, est-ce que l'amour court toujours ?
Écoute, oui, l'amour court toujours et on peut quand même le rencontrer, même quand on avance masqué.
Bah, pourtant, il y a quand même un rapport, on va dire, différent à l'amour quand on ne peut pas se voir, quand on est enfermé chez soi. Puisque depuis quelque temps, hein, en creusant le vaste sujet de l'amour et plus précisément le futur de la rencontre, et ben, du coup, du désir, de la libido... On est un peu perplexe, on se demandait déjà que faire devant le désordre amoureux que notre société vit depuis le 21e siècle et qui nous intimait à réinventer une séduction devenue totalement schizophrénique.
Ouais.
Mais alors, qu'est-ce qu'on va dire après plus d'un an de crise sanitaire devant l'accélération de l'évolution, voire la transformation des usages fortement influencés par la virtualisation ? Imposer des gestes barrières, bien sûr, et la soi-disant marchandisation,
c'est quand même la marchandisation,
nos sentiments. Alors, de la simple rencontre aux pratiques sexuelles, comment va l'amour, Sandrine ?
Comment va l'amour ? Eh bien, déjà, on va dire que l'amour n'est pas sous algorithme. En tout cas pas complètement encore, comme le livre de la journaliste Judith Duportail.
Excellent livre, excellent où elle raconte livre. Son aventure chez Tinder, sur Tinder.
C'est ça, ouais, absolument.
Dans son livre, la journaliste se demande si cela va devenir la nouvelle norme, la nouvelle normalité et se généraliser. Les rapports...
Les rapports, l'amour sous algorithme ne se généralise pas. Et on sait que lorsque l'on parle tendance, évidemment, on imagine des scénarios basés sur des projections, des extensions de la réalité. Et donc, qui dit tendance dit son antidote. On crée une tendance, c'est un peu comme le yin et le yang, le noir, le blanc, sinon ce serait pas drôle. Donc effectivement, pas de généralisation, mais plutôt des grandes tendance mise en tension, tu vois.
Mais comment ça, en tension, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire par exemple, type futur de la rencontre digitale versus rencontre dans la vraie vie. Hyper consommation de la sexualité versus asexualité. Fidélité versus adultère. Exclusivité versus polyamour. Voilà ce qui nous préoccupe aujourd'hui dans notre société. Et voilà les tendances que l'on met en tension pour nous permettre vraiment de prévoir des scénarios de transformation de notre rapport à l'amour, au sentiment, à la rencontre, évidemment.
Mais ça va ressembler à quoi, cette rencontre amoureuse ? Parce qu'on sait que les tendances arrivent aux États-Unis, puis déboulent en France. On sait que les rapports sont très marchands, en tout cas sont très normés aux États-Unis, où pour rencontrer quelqu'un, il faut être du même milieu social, à part rares exceptions, du même milieu socio-professionnel, à part rares exceptions.
Oui, ça change un petit peu, mais bon...
De la même église.
Oui, en l'occurrence. Mais là, de manière plus généralisée, disons que... ou alors de manière plus micro et pas macro, on va plutôt rester sur l'Europe, la France, même si ces tendances, effectivement, sont peut-être apparues plus vite aux États-Unis. Et les trois quarts des tendances qu'on va développer, leur nom ici est en anglais. Donc voilà. Et à commencer par le slow dating.
Ah!
Le slow dating.
Qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, déjà, ça se pratique, et là, on parlait d'algorithme, via des applications de rencontres, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la e-rencontre, dont la fréquentation a explosé, puisque on ouais, le sait,
tout bon était, nombre voilà. de personnes que je connais, bien on sûr.
Est, ouais. Et puis tout bien était sûr. Plus ou moins fermé, etc. Mmh. Ça l'est encore. Donc le slow dating est mmh. une tendance qui va s'inscrire dans la durée sous, évidemment, la contrainte de la distanciation sociale qui s'installe, la crainte d'être contaminé ou de contaminer qui nous incite à ralentir, à sortir de la frénésie du match, de la surconsommation, de l'impulsion du swipe, pour prendre le temps du choix, voire de l'exigence, et justement de réinventer la dite rencontre.
Alors depuis quelque temps, on constatait chez les célibataires de génération X, Y, Z, une lassitude envers les relations dites superficielles et précaires, ouais. avec un besoin de sens, de relations plus sincères et qui nourrissent en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Les confinements successifs, est-ce qu'ils n'ont pas un peu repoussé le moment de la rencontre physique qui avait lieu soit dans l'heure, soit après quelques échanges devenus presque automatisés, et qui peut-être nous ont contraints à revoir nos enjeux de séduction.
De séduction, c'est ça. Et là, on voit par exemple que les conversations via message durent plus longtemps, on prend le temps de la découverte. C'est ce que confirme une étude de Happn, par exemple, qui est une app de rencontre, qui a interrogé pas mal de ses utilisateurs. Je ne donnerai pas trop de chiffres, mais ce qui est assez saisissant, c'est que 70% des utilisateurs privilégient aujourd'hui les discussions prolongées, la découverte virtuelle sur le long terme. Donc, ce qui fait que dans cette tendance,
on apprend à connaître l'autre.
Exactement, on redevient curieux de l'autre, on s'apprivoise. Mmh. Et cette évolution des usages a aussi contribué à accentuer la sincérité. Mmh. On se montre plus naturel, plus vulnérable. On s'ouvre à une forme d'intimité plus vraie. Et évidemment, à commencer par nos profils. Qui était ultra
avec des filtres
les filtres et vas-y que je te rajoute du cheveu entre autres que je te gomme des rides donc et là en fait on va revenir justement à la sincérité et elle passe aussi par la description de soi. On est plus authentique pour matcher vrai. C'est aussi la redéfinition de ces centres d'intérêt qui sont repensés pour aller à l'essentiel. Oui. Donc on est moins ambitieux, on arrête les voyages à l'autre bout du monde, merci notre trace carbone, cela dit. On se recentre sur des plaisirs simples, par contrainte soit, mais en tout cas, il s'avère qu'on va vers plus de qualité et moins de quantité.
On dirait un livre d'Eric Fromm, le philosophe qui disait « avoir ou être », et on semble choisir plutôt l'être
plutôt
que l'avoir.
L'être, ouais.
Alors, à t'entendre, on n'y verrait que du bon. Pourtant, avec les gestes barrières, le masque, les lieux publics fermés, beaucoup ont l'impression que c'est la mort, et que c'est la fin, voire du romantisme.
On peut le voir comme ça, mais dans tout ce que l'on a fait comme étude et ce vers quoi on tend, moi, je te dirais non. Parce que, même
ça,
si...
Ça, c'est ton côté éternel optimiste.
Mon côté pessimiste gay, donc, et mon côté prospectiviste, où justement, on arrive à quand même anticiper certains phénomènes. Et là, en l'occurrence, même si la spontanéité du toucher, l'élan vers l'autre ou vers un autre corps ne sont plus possibles pour l'instant, on est quand même capable de faire preuve d'imagination, donc de renouveler la séduction. Et c'est l'objet d'une autre transformation de nos usages, qui sera de revaloriser l'amour contre la survalorisation du plan sexe, du plan cul, que l'on appelle ainsi communément. Parce que, masqué à bonne distance, on devient plus attentif aux gestes, à la voix, au regard. D'ailleurs, on en a déjà parlé, on se parle beaucoup plus avec les yeux, ce qui va doper notre attention à l'autre, notre confiance dans l'autre aussi, et on lâchera prise plus lentement pour ce qui est du câlin, mais plus sûrement, c'est certain.
Donc, avant de se toucher, il faut quand même se rencontrer et se voir. Comment on s'y prend? Quelle tendance s'ancre dans notre paysage amoureux là, dans les mois qui viennent?
Alors déjà, paysage, moi je te dirais plutôt décor, parce que devant le succès du visio-dating, il va falloir
ceux qui mettent
sa
des
déco.
Plages derrière eux, ou se mettent systématiquement devant une bibliothèque,
par exemple.
Pire, moi, pour moi, la pire des choses, c'est les gens qui se mettent devant une porte, devant un mur blanc, parce qu'ils n'osent pas montrer qu'ils ont un tableau, comme si on allait venir les cambrioler ou je sais pas.
Ah ouais, ou alors peut-être qu'ils ont plutôt envie de ne pas montrer leur intimité. Et ils ont envie de rester, en fait, qu'on se concentre sur eux et qu'on ne soit pas distrait par l'arrière-plan, tu vois. Mais je pense que c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que maintenant, à défaut de se voir en vrai, on va directement passer dans le salon de notre date. Donc, de préférence, ça nous permet de le connaître mieux ou la connaître mieux. Et c'est ce qu'on appelle l'outimacy. Donc, montrer, faire son outing, son coming out de son intimité, et que l'on pratique déjà depuis que l'on on télétravaille.
Ben bien sûr. Bon, alors là, c'est la découverte de l'autre. Savoir s'il a beaucoup de vaisselle dans son évier.
S'il a beaucoup de games de PlayStation.
Voilà, là, ça donne quand même des indications. C'est pas mal. Hein.
Ou pas, d'ailleurs.
Ouais. Bon, donc, y a les applications comme Tinder, comme Happn, Bumble, Grindr. Et d'autres qui offrent la possibilité de visio-date.
Oui.
Le Zating, ça s'appelle, non ?
Zating. Zoom dating.
Et certaines applications permettent même, tu me l'as dit, hein, d'envisager de partager une activité virtuelle avec son date. Comme la visite d'un musée, le partage d'un cours de cuisine, une session Netflix ou Spotify pour découvrir ses playlists. Bon, Happn a même publié une to-do list de conseils pour un date from home.
Oui, exactement.
Enfin bon, il y en a beaucoup qui ne résistent pas. Tu te rappelles, lors du premier confinement, l'homme chargé de donner l'évangile aux Anglais et de dire « restez chez vous » était parti de chez lui pour rejoindre sa maîtresse.
Bah écoute, il a bien fait, non ? Mais justement, pour les plus impatients, on verra qu'ils peuvent opter pour rencontrer son match, soit son premier date, directement en vidéo.
C'est pas drôle !
Bah écoute, c'est toujours mieux que faire des longs textos, quoi.
Ouais.
Non ? Enfin, tout est possible. Et là... Là, c'est Once qui le propose, Happn aussi, et selon Happn, encore une fois, selon cette étude, 54% des utilisateurs ont déjà envisagé leur premier rendez-vous en vidéo, via FaceTime, Skype, et on voit que ce chiffre est en pleine croissance, donc ça se normalise. Tu vois, et plutôt que le traditionnel « ça te dit qu'on prenne un verre », on se dira « ça te dit qu'on se fasse une visio ». C'est assez, assez décourageant pour certains, mais super inspirant pour d'autres, tu vois.
Oui, c'est un bon début, on va dire.
C'est un bon début.
Bon, alors qu'il s'agisse de conversations via une app ou une visioconférence, j'ai du mal à... Visioconférence, amour, j'ai du mal à mêler.
Ouais, mais ça, tu dis pas tellement... conférence, enlève conférence.
On dit visio.
Visio-date.
Ah,
la sémantique, mot, ça change tout.
Ce que confirment ces tendances d'échange à distance, c'est que l'on peut construire une relation intime, susciter le fantasme en reportant le moment du contact physique.
Tout à fait.
Et que par conséquent, ces tendances ne tuent pas le romantisme ou encore moins le désir. C'est ce que tu m'as dit, hein. Bon, j'en doute encore, mais bon, elles peuvent aider à s'assurer que l'on a appris suffisamment d'une personne avant le rendez-vous.
Dans la vraie vie.
IRL.
IRL, ouais.
In real life. Bon, alors par ricochet, qu'est-ce qu'on peut dire
Par ricochet, je trouve que ces options sont aussi un moyen de protection pour les femmes. Qui font parfois et plus facilement l'objet d'agressions, par exemple. Donc ça, c'est à prendre en considération. Je sais que c'est pas, encore une fois, super romantique. Néanmoins, ça fait partie de la réalité.
Mm-hmm.
Donc c'est important. Et nous, on le voit dans les tendances aussi. Hein. C'est bon de le signaler. Et puis pour illustrer la contre-tendance que j'évoquais en introduction, le contraire du visio-dating qu'on appelle le zating, c'est le zumping.
C'est quoi ?
Ou le zoom dumping, soit se faire tège, enfin se faire quitter par Zoom pour éviter la version face-to-face.
Ah, mais les vrais lâches ne le font même pas par...
Ouais. Ils le font par texto, voire ils le font pas du tout,
voilà.
Ils se barrent. Enfin, il ou elle, hein, parce que il, c'est la généralité.
Bien sûr,
on englobe.
Ouais.
Et une autre tendance pour aller encore un peu plus loin dans le virtuel, on peut tenter l'apocalypsing.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, ça consiste à idéaliser la personne que l'on a rencontrée virtuellement, et de construire une relation virtuelle comme si c'était la dernière. Voilà. Mythologie du futur, en fait. Et comme toi, pour ceux qui ne parviennent pas à concevoir le visio dating, tu peux tenter le corona cuffing qui est né lors du coronavirus, voilà, et qui veut dire littéralement cuffing menotté. Ça consiste à trouver un partenaire inconnu ou une personne de notre entourage avec qui soit on aura une ouverture, soit avec qui on s'entend bien depuis un certain temps et avec laquelle on s'installera pendant les périodes de crise.
Ah oui, c'est un bon ami avec qui on passe cette crise en se disant...
En se disant soit ça peut être un date, une vraie histoire, soit pas, mais en tout cas, c'est, on va dire, ça peut durer du moins un temps. Le temps de la crise. Et comme on va en passer plusieurs...
Oui, semble-t-il.
Voilà, semble-t-il, c'est bien d'y penser. Et on peut aussi...
C'est pas très romantique, ça, mais enfin bon.
C'est pas très romantique, mais c'est pragmatique. Et alors, plus romantique, j'ai pour toi une tendance qui est la re-rencontre.
Ah oui.
La re-rencontre, et Charles Pépin l'évoque dans son livre « La philosophie de la rencontre », c'est quelque chose qu'on a noté nous aussi. En fait, ici, la re-rencontre, c'est reprendre contact avec des personnes que l'on avait datées. Alors pour Charles Pépin, j'invite à lire son livre, c'est plus complexe que ça ou c'est plus romantique que ça, mais là en l'occurrence c'est prendre contact avec ces personnes que l'on avait datées ou tout simplement dont on avait raté la première date mais qui nous était restée un petit peu comme ça en mémoire.
Ouais, alors on se dit ouais, ce serait bien, ce serait fantastique. Donc, pendant le corona cuffing, ce serait en fait du next dooring.
Ouais, le next dooring, on en a parlé.
L'histoire du voisin, de la voisine de palier, de quartier, qu'on a aperçu, qu'on croisait vaguement et qui suscite notre intérêt.
Oui, c'est ça. Et parce que, justement, il répondrait au désir né après le premier confinement de retrouver une stabilité émotionnelle. Autre tendance forte, là, je généralise un petit peu, mais c'est cette idée de retrouver la stabilité émotionnelle. Donc, encore une fois, on revient au slow dating, qui est une tendance qui vraiment est là pour s'installer et durer. C'est prendre le temps. Prendre le temps vraiment de cette rencontre et de ce rapport à l'autre. Alors, le meilleur pour la fin aussi, je pensais les apps comme Tinder, Bumble ou Grindr ou Grindr, comme on veut, permettent de ne pas renoncer à l'idée aussi de rencontrer la personne de ses rêves. Pour ceux-là qui pensent pouvoir la rencontrer via app, super. En revanche, il reste aussi ceux qui sont plutôt in real life et qui n'aiment pas le digital. Donc, on voit le revival de la tendance agence matrimoniale traditionnelle. Les vrais de vrais, donc comme Unicentre, par exemple, qui ont flambé depuis la pandémie.
Ah ouais ?
Ouais, mais carrément.
Ah, je croyais qu'elles étaient mortes et enterrées, les agences matrimoniales.
Non, elles reviennent en force avec leurs services personnalisés de choix de profil, de suivi, d'aide à la décision. Et puis, en plus, elles ont un réseau de dingue, elles ont un carnet d'adresses. Enfin, bref, c'est un petit peu comme le who's who, ou comme le bottin, quoi. Et aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est qu'elles attirent les trentenaires.
Non, je n'y crois pas.
Ah, mais je te le garantis, c'est vrai de vrai. On y a travaillé, on a creusé le sujet.
Bah oui, parce qu'ils ont un service personnalisé avec des profils. Bon, ok, une fois cette étape passée, et on se rencontre dans la vraie vie, IRL.
Oui, mais justement.
IRL, pas irréel.
Ouais. Tu vois, super lapsus.
Tu me diras, c'est pas très compliqué à prédire.
Se rencontrer dans la vraie vie, ok, mais la question c'est où ? Et en effet, là, on va dire que c'est un autre mot anglais. On va parler de outing.
Ça veut dire quoi ? On va faire son footing
Ça veut dire la rencontre en plein air.
Ouais.
Out. C'est pas une nouveauté en soi, puisqu'on y est bien obligé. C'est là pour s'installer. Reste surtout à l'enrichir, à lui trouver des lieux originaux. Alors évidemment, les parcs, les bancs publics, spéciales dédicaces à Brassens.
Les
si
amoureux
on se
qui
souviennent
se
d'eux, voilà.
Bancs publics. Bancs publics.
Je chanterai pas, mais je suis de tout cœur avec vous. Et non, en fait, on va aussi voir des lieux itinérants, plus inattendus, comme la voiture. La voiture, c'est assez étonnant.
Comme le drive-in des Américains.
C'est ça.
Sauf qu'on n'a pas de cinéma.
On n'a pas de cinéma, mais on peut toujours, je ne sais pas, mater un truc sur son téléphone et le faire refléter sur son pare-brise. Surtout lorsque le temps ne permet pas la balade en extérieur, par exemple. Ou alors, à l'inverse, évidemment, comme je te disais, l'antidote, c'est le homing. Ça veut dire recevoir directement chez soi. Évidemment, passer la question de confiance... d'où l'importance, on boucle la boucle, de soigner sa déco d'intérieur.
Grosse tendance, la déco d'intérieur, ça n'a jamais autant marché que depuis la pandémie.
Depuis le début de la pandémie, et ça vaut le coup d'aller réécouter notre podcast sur les tendances déco 2021.
En parlant de vraie vie, une fois qu'on a tombé le masque, la veste, tout le reste, est-ce qu'on s'embrasse? Parce que bon, on a peur d'être infecté.
Voilà, on a peur d'être infecté. On a
un test avant.
Infecté, ouais, mais ça prend un peu de temps. Mm-hmm. Donc non, on va dire que là, ce qu'on a noté et ce qui va continuer c'est la tendance du baiser qui faiblit. Donc évidemment, ouais, par instinct de protection, on est plus réticent. Et selon un sondage réalisé par Glidden, qui est une agence de rencontres extra-conjugales, on y viendra tout à l'heure, 61% des couples s'embrassent moins sur la bouche. Le bisou sur la joue, 46% est préféré. Et celui sur les lèvres, on y va tout doux, à 39%.
Mais c'est pas drôle. Ah, alors, on est quand même, je suis désolée, les créateurs du French Kiss, hein, ça va bientôt devenir obsolète, parce que c'est vrai qu'en matière de libido, depuis le confinement, d'après les chiffres, les tendances semblent avoir changé ou s'être accélérées. Quelles sont les prochaines ?
Alors, en matière de libido, alors là, on va généraliser un petit peu, mais qu'il s'agisse de couples en présentiel ou à distance, de célibataires, de ceux qui privilégient les relations amoureuses ou sexuelles épisodiques, de ceux qui pratiquent le polyamour, puisque justement, hein, on étudie tout ça pour faire émerger des tendances.
Et pour comprendre.
Donc, confinement et couvre-feu ont vraiment changé nos habitudes, et on peut dire qu'en matière de sexe, la tendance... des sex toys est reparti à la hausse. Ah. Mais oui.
Mais je croyais... Je croyais que les gens faisaient moins l'amour, il y a moins de naissances. Enfin, tu me diras, la pilule n'existe pas pour les chiens.
Bah oui, mais justement, s'ils font moins l'amour, peut-être que le sex toy, selon un sondage de Tenga, qui est une marque de sex toy, 24% des Français se sont laissés tenter, dont 5% déclarent en avoir acheté spécialement pour le confinement. Et puis le sextoy, c'est aussi, ça contribue à la généralisation du sexe à distance grâce à la technologie. Là, c'est une autre tendance forte qui justement a démocratisé ce qu'on appelle les sextoyers en jouant sur le côté ludique de la pratique pour normaliser une tendance qui, justement, avait tendance à culpabiliser ses utilisateurs.
Alors, ne peut-on pas en dire autant du sexe à distance ou du sexting numérique qui se normalise et se démocratise ? Nous ne parlons pas évidemment de la flambée des sites pornographiques, mais de vidéos, de visio-sexe via Internet entre personnes consentantes, qui se connaissent.
Absolument, oui, oui.
Et qui sont adultes.
Et oui, de préférence. Donc, consentantes, et puis tout ce qui est visio, je l'ai dit tout à l'heure, sexe à distance. Ça a commencé et ça va continuer de d'éclore. Ça a commencé avec, par exemple, son partenaire, un partenaire stable, vivant à distance. Et donc, on n'était pas ensemble pendant le confinement. Ça a même permis à certains couples de ne pas, justement, perdre le désir. D'en faire peut-être une nouvelle habitude qui va contribuer à le maintenir et qui va normer cette relation et ses pratiques, par exemple.
Alors, d'ailleurs, le sexe en ligne ou visio-sexe...
Ou même sexting.
Ouais, le sexting.
Se pratique...
Le sexting. Ah, je vais y arriver. Le sexting se pratique aussi via des apps qui permettent l'amour entre sexto, hyper factuel, émoticône, photo
Et
intime.
alors ça, c'est pas nouveau,
Non,
mais ça
non.
revient, mais ça flambe. C'est vraiment quelque chose je dirais, qui encourage aussi d'autres tendances, comme celle des rencontres. Alors, on croyait les rencontres extra-conjugales mortes. Donc, on se disait, mais mince, comment font toutes ces personnes infidèles maintenant pour se rencontrer, pour vivre des aventures? Eh bien, elles vont sur des apps, comme Glidden, par
Ah
exemple.
oui, qui
Bon.
a fait scandale avec une pub dans le métro
Ouais,
qui
moi,
avait
je suis
choqué
plutôt sur
Anna.
l'idée de faire du badinage, justement, sexuel, avec comment dirais-je, des personnes extra-conjugales, puisque justement, disons que comment dire, c'est un besoin qui vient évidemment de l'enfermement, de s'évader. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment du badinage, c'est virtuel. Et même justement, si on a été rendu plus exclusif et fidèle, c'est une autre tendance aussi qu'on a vu apparaître depuis le confinement, eh bien, on a quand même besoin de prendre l'air. Et c'est une manière de prendre l'air aussi.
Donc dans ce cas-là, tu dis que le sexe numérique n'est pas du sexe. Dans ce cas-là, enfin, ce n'est pas trompé.
Non, c'est pas pareil. C'est-à-dire que le sexe numérique entre deux personnes ou trois personnes ou autant de personnes que tu voudras, parce que si tu as la place chez toi, tu fais ce que tu veux. Mais non, mais on en rit comme ça, mais ce sont des tendances que nous, on décrypte vraiment. Donc ça, c'est quelque chose qui permet même de garder, je sais pas, un équilibre mental, un équilibre du désir, surtout lorsqu'on est séparés de manière... Parfois aussi, tu travailles très loin, donc justement, tu ne vois pas ton
Bien
partenaire ou ta
sûr.
partenaire.
Non, mais
C'est un
c'est un vrai
moyen,
problème hein, pour
absolument.
beaucoup de
Et
beaucoup de gens.
là, en l'occurrence, c'est tout à fait normal et tout à fait intégré, ça s'intègre dans nos vies. Après, pour ce qui est des relations extra-conjugales, ça permet, disons, de ne pas aller au bout de cette relation, de ne pas passer à l'acte et de rester dans le badinage, donc presque dans le côté léger, le côté presque consenti, où justement on peut s'amuser à plusieurs couples à titiller nos désirs différemment sans se rencontrer. Donc là, c'est super intéressant de voir comment ça se démocratise.
Et pour aller plus loin encore.
Pour aller plus loin encore, et là tu vas flipper, c'est la digisexualité
Digi, ce sont les doigts.
Non, c'est le digital, mais écoute, oui, tu fais appel à tes doigts, que l'on avait déjà commencé, nous, de creuser en 2019, et qui va se démocratiser. Et
D'accord, et qu'est-ce que c'est que ça?
bien, il s'agit de créer avec la technologie une véritable relation amoureuse. On a recours à la technologie
Merci, ben
immersive,
je
tout à
vois. La
fait.
réalité virtuelle, l'IA, ouais. Donc, c'est des applications qui offrent des expériences audio,
Ouais, type
type. Ah
ASMR,
ouais.
ouais, du sex voice expérimentatoire ou de la sexperimentation, mais sans l'attachement d'une relation physique ou émotionnelle.
Ah, c'est
Qu'aujourd'hui, on ne
rigolo.
peut plus. Oui, ça peut être rigolo, mais.
Bon, ça semble effrayant, hein, dit comme ça, totalement déshumanisé, hein. Ça me rappelle le film Elle.
Oui, Her.
Ah,
Ouais,
ouais.
Her. Excellent film. Eh bien voilà, c'est à partir de là, on avait déjà commencé de travailler sur Her, qu'on a pu dépister toutes ces tendances.
Donc on est en pleine récession sexuelle.
On est en pleine récession sexuelle, je dirais qu'on est en pleine contradiction, puisqu'on dit que notre société n'a jamais été aussi ou autant permissive en matière de mœurs. Donc, en France, par exemple, en matière de récession sexuelle, là où je dirais que c'est vrai, c'est que pendant et après le confinement, sur les couples interrogés, on a vu qu'un couple sur 10 dit s'être éloigné, et la jeune génération en particulier. En fait, enfin, le confinement a agi à la fois comme un catalyseur pour couple et un accélérateur de relations, mais pour le meilleur comme pour le pire. Par exemple, il y a des couples qui ont explosé en vol, des couples de longue date.
C'est révélateur, oui. Cette période où on est... Oui. On baigne dans le même bain.
C'est ça. Mais ça a été un révélateur aussi de tendances fortes qu'on avait tendance à... qu'on avait tendance à cacher ou à subir comme l'éloge du célibat. Aujourd'hui, on fait l'éloge du célibat comme affirmation de soi. Et ça, c'est assez extraordinaire, surtout, et là encore une fois, hélas, les femmes en souffrent plus que les hommes. Et dans certaines cultures, certaines familles, quand une femme affirme son célibat, elle est un petit peu regardée comme une IA, comme une intelligence artificielle, alors que non, pas du tout, c'est une femme, ou un homme, bien sûr. Autre tendance dont on n'a plus forcément honte, c'est l'asexualité. Asexualité, c'est le non-désir de l'autre ou le non-désir pour le sexe. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà, nous, travaillé depuis longtemps avec le Japon qui a été précurseur. Quand on sait que 40 à 50% des Japonais de 18 à 34 ans n'ont jamais eu de relation sexuelle par choix.
Mais c'est peut-être parce qu'ils vivent dans des maisons avec des murs en papier.
En papier.
Non,
Peut-être
que tu ne veux pas te laisser aller...
Peut-être que culturellement, c'est intéressant, mais en fait, il s'agit plutôt d'une abstinence désirée et qui n'est pas réservée aux jeunes, hein, attention. Hein, mais bon, moi, je dirais qu'avant d'arriver à la récession sexuelle, il va falloir quand même explorer toutes ces tendances. Il va falloir les tester.
Moi, j'ai entendu dire que les célibataires étaient assez malheureux pendant cette pandémie parce qu'ils n'arrivaient pas à rencontrer des gens, parce que c'est un fait d'être célibataire, mais la curiosité, le badinage, ça fait du bien aussi à l'âme.
Mais en fait, oui, et c'est justement en observant pas seulement la vie de couple, mais la vie de célibataire, que l'on a pu extraire, que l'on a pu anticiper et voir éclore toutes les tendances dont je te parle, qui font peut-être aussi, c'est une forme d'évitement ou une forme de transition pour aller vers la rencontre ou vers une autre sexualité ou pour retrouver un petit peu de l'excitation des corps que l'on ne peut pas toucher. Mais si on fait le bilan, là, qu'on soit justement célibataire ou en couple, la tendance qui se dégage de tout ce que l'on vient de dire, c'est et c'est l'économiste Nicolas Bouzou qui la résume le mieux, lui dit que l'amour est un échange d'exclusivité et l'idéal du couple à deux. C'est-à-dire que l'idéal du couple à deux, il reste incroyablement stable. Même le polyamour qui fait partie des tendances maintenant normées, etc. Non, en fait, il est même encore plus fort dans une société qui est déstabilisée vraiment à tous les niveaux.
Oui, il est même encore plus fort. Il faut bien avouer qu'en matière de tendance amoureuse, peu importe où l'on se situe en amour, le contexte nous aura mis en face de nos véritables envies, sur notre manière de vivre à deux, en fait.
Tout à fait, à deux, à plusieurs ou en solo.
Bien sûr, on sait mieux désormais ce qu'on désire et ce qui nous rend heureux ou heureuses, et ce qui nous est essentiel. Et surtout, on se dit qu'on ne craint pas d'aller vers des expériences nouvelles, puisque... On a eu le temps d'y réfléchir,
absolument,
de se renseigner, de regarder.
Oui, justement, ça a été peut-être un catalyseur, tu vois, et peut-être que demain, le baise-main redeviendra ou deviendra punk.
J'adore.
Ouais,
c'est
super
chic.
Ouais, j'adore, moi, le baise-main.
Bon, on vous laisse. À bientôt.
À bientôt.
À la semaine prochaine.
Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes,
à mettre un commentaire ou 5 étoiles,
à suivre Le Marais Mood sur Instagram et à partager l'épisode en story,
à découvrir les autres épisodes déjà en ligne,
à parler de moderne autour de vous.
Un grand merci.
Katia Barillo et
Sandrine Maggiani,
fondatrice du podcast Moderne.